Et si je pose la question à personne de l'Oregon, lequel des deux est grand? Bien, aucun des deux, puisque chacun a son endroit. Mais ce sont deux endroits incommunicables, même si apparemment, encore une fois, nous employons les mêmes. Cependant, je crois qu'il y a déjà quelques lieux privilégiés, dont en particulier les deux. Et peut-être en tout cas, pour ma part, je peux évidemment engager que moi-même, comme vous le savez, ils n'ont pas, de la même manière que lui, un magistère de hiérarchie, quoi que nous n'avons pas, nous n'avons pas, en fait, administrativement, nous n'avons pas, et en général, chaque fois qu'un rabbin exprime un point de vue sur des questions de ce genre, eh bien, il se doit de dire d'abord, et ce n'est pas une formule de style, qu'il n'engage que lui-même. Mais je peux dire que je me base sur au moins une cinquantaine d'années de fréquentation du milieu chrétien et de la foi chrétienne, telle que je peux essayer de la comprendre moi en tant que juif. Je crois que j'y parviens parfois. Parce que malgré tout, les catégories de la foi chrétienne, telles qu'elles apparaissent dans le juif, eh bien, sont finalement traduites lointainement de l'hébreu. C'est très ancien, l'origine hébraïque. Mais quand même, c'était d'origine hébraïque. Et par conséquent, nous nous habituons dans nos propres études, lorsque nous parlons de ces problèmes de relations avec la foi chrétienne, quelles que soient les nuances de l'Église, malgré tout, pour nous, on très lucide qu'il y a la chrétienté. Et que les divisions entre orthodoxes et protestants catholiques, les sous-divisions sont très importantes. Parfois, nous avons des lueurs sur l'importance de ces différences. Enfin, c'est très second par rapport aux deux ensembles, le juif d'un côté et le chrétien de l'autre, d'une façon générale. Et nous nous habituons donc, je vous dis, à suivre ce décalage à partir de l'araméen, transmutation en grec, puis traduction en latin, puis retraduction dans les langues vernaculaires contemporaines. Et nous ne pouvons en tout cas pas oublier l'origine hébraïque de la différence. Seulement, il est évident que du côté chrétien, eh bien, cette origine hébraïque est complètement occultée. Même si, mais il y a bien, dans certains groupes privilégiés, dont le peuple, vous avez déjà idée de quoi il peut s'agir. Alors là, peut-être, notre dialogue est un peu plus aisé. C'est-à-dire, j'ai très conscience que, et je dis tout à fait, que nous sommes un cas particulier. Cet après-midi, un cas d'exception. Nous souhaitons tous les deux, d'ailleurs, que ça fasse exemple, que ça fasse modèle. Et je ne sais pas s'il faut prendre, cela, comme statistiquement, l'échange que nous allons avoir, je ne sais pas s'il faut le prendre statistiquement comme, exemplaire de tout dialogue judéo-chrétien sur ce problème-là. Pas si je me suis exprimé suffisamment clair. Alors, ce dépaysement auquel je vous invite, je vais essayer de le formuler de la manière suivante, tout en sachant que c'est impossible. Essayez par postulat d'adopter comme critère d'évidence immédiate les critères d'évidence de la conscience et de mettre en problématique la conscience chrétienne. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est quand même cela qu'il faut avoir présent à l'esprit pour que j'essaye de vous aider à mieux comprendre qui nous sommes, en tout cas aujourd'hui, par rapport à ce problème. Bien entendu, nous n'allons pas parler de tout ce qui concerne la relation avec la chrétienté d'un côté et la relation avec l'islam de l'autre. Un ensemble de problèmes très considérables, mais je vais essayer de marquer des pieds, de centrer cela sur le sujet précis que tel qu'il m'a été posé. On vous invite à une journée de prière, à une période de prière pour les Palestiniens. Bien sûr, c'est défini prière pour la paix intersainte, mais nous savons tous ce qu'il y a derrière. Et puis, mais d'autre part, vous êtes très conscient que d'un autre côté, il y a, mettons ça entre guillemets si vous voulez, un contentieux judéo-chrétien concernant le Carmel d'Auschwitz, mais c'est une incidente par rapport à la Shoah, c'est-à-dire à l'histoire du christianisme qui, sur ce problème, culmine dans ce qui s'est passé en Europe, en Angleterre. Je vais donner très rapidement, vous voyez, trois termes désignés l'identité d'Israël. Nous savons tous que ces trois termes, c'est hébreu, juif et israélien. Nous savons tous que ça désigne pratiquement à peu près la même chose, mais on est très bien conscient que ce n'est pas exactement la même chose. Eh bien, Israël, tel que on parle, la Bible apparaît au niveau de l'identité hébraïque fondée, je dirais même refondée par Abraham à l'origine. Et je ne voudrais pas, comment dire, handicaper tout cela par des références ou des allusions à une religion qui est trop pesante. Acceptez comme postulat que ce que je vous dis, même si ça vous dévise, est basé sur des sources bibliques précises et authentiques. Abraham fait partie d'un peuple hébreu qui existe depuis l'ancêtre du patriarche qui se nomme Hébreu dans la langue de Shem, lui-même fils de Noé. Ce peuple hébreu, intérêt à Abraham, était en diaspora dans la civilisation du temps qui est la civilisation chaldéenne, capitale pour Kazé. Et dans cette exil de Babel, de la première Babel, de Babel de l'Antiquité, l'hébreu était devenu araméen. C'est-à-dire, l'identité de l'hébreu en exil de Chaldée, c'est l'araméen. Un peu comme dans l'exil, le troisième exil qui est l'exil contemporain, qui commence avec Rome et s'achève avec l'État d'Israël, en tout cas pour les Israéliens, et qui a duré plus longtemps, l'hébreu en exil dans la civilisation romaine et le juif. Je crois que cette analogie peut-être vous permettra de voir de quoi, assez rapidement de quoi je parle. Et alors, Abraham quitte l'exil de Chaldée, rentre chez lui dans le pays de Canaan, le pays par terre des Hébreux. Je vous donnerai des références à la Bible si c'est nécessaire. La Bible appelle ce pays la terre des Hébreux. En particulier, dans un des récits concernant l'histoire de Joseph, lorsque Joseph, dans la prison, rencontre le ministre du Pharaon et qu'il raconte son histoire, il dit j'ai été volé de la terre des Hébreux. De la terre Canaan. Qu'est-ce qu'il y avait en Hébreu? Quand Joseph, Jacob et ses fils. Et pourtant, le ministre égyptien entend la terre des Hébreux, c'est de quoi il s'agit. De même qu'un peu plus tard, lorsque Moïse va être chargé de mission en Égypte, il est chargé de mission au nom du Dieu des Hébreux. Et les Égyptiens comprennent. Eh bien, je reviens donc à cette définition. Abraham quitte la situation de Kazim, c'est l'appel de Dieu à Abraham. Regardez à quel point c'est extraordinaire, comme lorsqu'on lit les choses en hébreu, on est secoué. Ce que nous appelons en français, et finalement en verset clair, l'appel de Dieu à Abraham, c'est quoi? C'est que Dieu se révèle à Abraham pour lui dire « va-t'en ». Et ça appelle, c'est « va-t'en ». Enfin, on commençait à être en secours. « Va-t'en d'où ?» De l'exil. « Et rentre chez toi. » Effectivement, Abraham se dépouille de son identité araméenne et c'est un effort extrêmement dur que la Torah, que la Bible raconte au niveau de trois générations. Jusqu'à ce que Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, a achevé de se dépouiller de cette identité d'exil araméen, redevient hébreu et reçoit le nom d'Israël. Or, cette histoire est accompagnée par, dans le récit biblique, par toute une série de personnages qui entourent l'histoire d'Israël dès ses commencements et qui s'instaurent en rivalité d'Israël. Dès l'origine. Et donc, notre conception de l'histoire, de la signification de l'histoire selon la forme biblique, eh bien, nous avons un postulat que cette histoire qui a commencé avec Abraham se perpétue jusqu'à la fin des temps, et que nous appellerons les temps messianiques. Et nous appelons Acharit HaYamim, c'est-à-dire la fin des temps, c'est pas la fin du temps, c'est la fin des temps d'exil. Et comme cela, donc si nous sommes Israël, et nous sommes censés être Israël, alors Ishmaël est Ishmaël. Et représentant l'histoire de notre différent avec Ishmaël est racontée dans le récit biblique dès le commencement, dans l'histoire des patriarches. Et là, nous sommes évidemment en postulat de catégorie des croyants. Quelles que soient les nuances, les théories en entre eux dans ce que je viens de dire, ce qui nous est quand même commun, c'est que nous admettons que le texte biblique est révélé, encore une fois, quelle que soit la manière dont les théologiens entendent ce terme de révélation, et qu'ils racontent des historiettes, et qu'ils racontent des choses sérieuses, et qu'ils racontent la signification de l'histoire humaine selon Dieu. Si c'est cela la révélation biblique, c'est pour nous, c'est cela la révélation biblique. Et par conséquent, il est bien évident que lorsque nous nous relions à ces problèmes existentiels que nous vivons dans l'existence, eh bien, la position d'un juge traditionnel, c'est pas du tout d'avoir des idées, d'avoir des hypothèses, d'avoir une idéologie. C'est d'appliquer la connaissance de sa foi à ce qu'il vit dans l'histoire. Et ça vous fera percevoir pourquoi un juge traditionnel, quelle que soit l'énormité des problèmes qui nous interpellent, parce que finalement nous sommes un tout petit peuple interpellé par le monde entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça manque d'humour. Il se passe quoi que ce soit ici, tout le monde a mal au ventre le monde. Ça manque d'humour, selon cet énorme. Et ça depuis toujours. T'sais. Eh bien, je dirais que, quelle que soit, disons, l'envergure énorme de cette interpellation, un juge traditionnel n'a même pas besoin de dire qu'il est assuré en foi parfaite et en connaissance parfaite. Il est en train de vivre la programmation du plan de Dieu dans l'histoire humaine tel que Dieu l'a voulu. Et, par sa grâce, en payant un peu bien, il nous l'a fait connaître à l'avance dans la révélation biblique. Je vais vous dire à quel point de sécurité de la foi nous sommes. Dans ce problème, pour nous, il ne s'agit pas du tout d'idéologie, politique, humaniste, tout ce que vous voudrez, ça on comprend, mais c'est autre chose. Pour nous, il s'agit de qu'est-ce que Dieu pense de ce qui se passe. Alors, nous n'avons pas à l'inventer, il l'a dit, il nous l'a raconté, il faut le dire en hébreu. Est-ce que c'est clair un peu plus. Et alors, voilà. En réalité, je donne un coup de projecteur pour montrer les dimensions du problème. Il y a six personnages principaux qui entourent les trois patriarches et qui s'instaurent en réalité de l'identité d'Israël. Je vais les énumérer très rapidement et puis on ne parlera que de deux concernant le problème. Ce qui a été la souche du christianisme d'un côté, ce qui a été la souche de l'islam de l'autre. Or il est bien évident que deux phénomènes aussi énormes, quelles que soient encore une fois les dialectiques de rivalité que nous avons dans mon dialogue, ne sont pas en dehors du plan de Dieu pour l'histoire. Le chrétien, je le sais, a un problème concernant ce que serait une théologie positive du judaïsme. Il ne dispose encore qu'une théologie négative du judaïsme et ça le gêne. Mais bien entendu, même s'il met ça sous l'aspect du mystère, il ressent très bien que Dieu ne peut pas oublier. Et par conséquent, il faut que le chrétien, en tant que chrétien, se rende compte de la signification de l'existence du peuple juif, même après la création du christianisme. Ceci en problématique chrétienne, mais inversement pour un juif. Mais bien évidemment que le christianisme, ça sert à quelque chose, et sert à quelque chose dans le plan de Dieu, de phénomènes aussi énormes, ça va être des inadvertances de la providence. Alors vous découvrez que nous avons notre propre opinion du christianisme, et notre propre opinion de l'islam, que pour cela nous n'avons même pas besoin d'écouter le chrétien et le musulman parler, mais nous l'écoutons pour savoir sur quel point d'erreur il se trouve par rapport à la problématique hébraïque, le cas échéant, ou sur quel point de coïncidence positive il se trouve déjà. Et c'est je pense que les non-juifs ignorent que les juifs ont une connaissance de leur histoire, de leur identité. Qui est sui generis. On s'est trop habitué au jeu d'hérésie. Et ce que je veux dire assez rapidement, c'est pour essayer de faire entendre de la façon la plus claire possible que pour nous, Israéliens, les exilés, que nous ne sommes plus des juifs d'exil ou des juifs de cour. Nous sommes redevenus des Hébreux. Et ça fait du bruit pour nous, depuis que le juif est redevenu Hébreux de notre. Alors, très rapidement, en coup de projecteur, et bien au niveau d'Abraham, nous voyons dès le début deux séries d'antagonistes qui s'installent. La première a pour objectif de détruire cet Israël dont l'identité commence à émerger. La deuxième, c'est une sorte d'approximation d'identité qui s'instaure en rivalité. Alors là, je m'excuse parce que j'avais vu que j'avais secoué un peu les habitudes de pensée, mais je vous ai prévenu. Okay. Alors, je vous fais en plein pied et que Dieu me garde de risquer de blesser la sensibilité religieuse de qui que ce soit. Et si on a à recoder ce que je vais dire, si je vais vous faire bondir, je sais, ça fait 2000 ans que je sais, mais on recodera ça tout à l'heure. Et bien voilà, au niveau d'Abraham, entre autres, mais les figures centrales dont je parlais, c'est d'un côté Nimrod, de l'autre côté Lot. Or, comme vous le savez, Nimrod est le tyran de la civilisation de Babel. Les citations me reviendront en hébreu, mais si ça vous est nécessaire, je vous les donnerai ensuite en français. Je fais vraiment allusion à lui. Nimrod a pour objectif de détruire cette identité qui réémerge avec Abraham. De notre côté, nous avons un personnage qui est de la même famille, le neveu d'Abraham, qui s'appelle Lot, et qui est donc de la même identité araméenne. Je répète, d'origine hébraïque, devenu araméen dans l'exil. Et puis qui fait un petit bout de chemin avec Abraham, et ensuite il se sépare. Une sorte de critère de sélection d'identité, le mot est affreux, qui apparaît. Lot ressemble à Abraham. Et à un certain moment, dans la querelle des bergers, Abraham dit à Lot que nous ne soyons pas en querelle, puisque nous nous ressemblons comme des frères. Ils n'étaient pas des frères, mais nous sommes des frères. Nous nous ressemblons comme des frères. Lecture que l'on fait. Et lorsqu'on voyait le Midrash, explique que lorsqu'on voyait Lot, on croyait voir Abraham, mais lorsqu'on voyait Abraham, on croyait voir Lot. Étant donné la même équation de manière d'être homme, la grammaire devenant hébreu, capacité d'être frère, c'est comme ça qu'ils ont défini. Le mot de frère avait disparu du récit biblique quand Caïn a tué Abel. Le mot de frère revient dans le récit biblique avec Abraham. Alors Lot est capable d'être frère comme Abraham, mais il y a une grande différence entre eux. L'un tient compte de la morale, c'est Abraham, l'autre ne tient pas compte de la morale. Tout ce qu'Abraham fait, Lot singe dans l'immoralité. Abraham est hospitalier, Lot est hospitalier. Vous connaissez la scène d'hospitalité des filles de Lot, à ce point de vue. J'ai connu une fois M. Lévinas, vous avez certainement entendu parler, Emmanuel Lévinas. Il disait un jour, si Abraham c'est le juif, alors l'autre c'est le salut. Salut. C'est le saint, c'est le don porté. Et pourtant, en enveloppant en lui des étincelles de sainteté enfouies, ils vont ressurgir un jour. Ruth viendra de la descendance de Ruth. Et Ruth sera en cercle de la vie. C'est pourquoi Abraham protège l'autre. Bien que. Alors voilà la première génération. Deuxième génération, ça devient de plus en plus clair. Deuxième génération, c'est Isaac, le patriarche. Et alors, l'approximation d'identité qui s'instaure en rivalité, c'est comme par hasard Ishmaël. Et quel est l'objet de la rivalité? La terre d'Abraham. Et ça commence à dire. Et puis, il y a un personnage dans l'histoire d'Abraham, qui est le roi de Philistée, Abimelech, et qui dut couper cette identité hébraïque ressurgie avec Isaac de la terre des Hébreux. Par exemple, voilà comment Abimelech s'exprime. Voici ma terre, installe-toi là où tu veux, tu es mon invité. Et à qui dit-il ça? Au patriarche qui entend bien lui dire, c'est ta terre. Donc ce conflit commence avec les Philistins. Je ne sais pas si c'est un humour de l'histoire que les chrétiens ont finalement pris l'habitude d'appeler ce pays la Palestine. Et bon, ça c'est les Britanniques. Et ont donné ce nom à la Syrie du Sud, dont ils savaient, au démembrement de l'Empire turc, de l'Empire ottoman. Et puis ils ont pris ce nom-là des Romains. C'était le nom qui servait aux Romains à désigner la Philistée. Et vous seriez amusé de savoir qu'en hébreu, ce mot de Pélache, la Philistée, c'est la racine du flot, ça veut dire les conquérants. C'est-à-dire qu'il y a des conquérants dans ce pays, c'est bien les Palestiniens. Enfin, c'est bien sûr qu'on appelle les Palestiniens. Je lis la Bible, je ne dis pas le journal du ministère des Affaires étrangères. Et alors, je ne sais pas si c'est déjà chez vous. Et alors, c'est assez étonnant. C'est tellement étonnant. Énorme, ça donne le vertige. C'est-à-dire, c'est la Bible qui nous raconte notre histoire. Et elle se passe comme ça. Et je ne sais pas de quoi il faut le plus s'étonner. De ce que nous sommes encore capables, après un si longtemps, de lire ces textes et de les comprendre. Bon, vous savez, de ce que c'est notre langue, finalement, les vrais du livre, les vrais prophétiques. Ou bien de ce que, il faut savoir de ce que les faits s'entêtent à donner raison au texte à la lettre. Je crois que je me suis étonné des deux. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Alors, vous voyez, je ne sais pas, est-ce que j'ai réussi à vous faire pénétrer un peu rapidement dans l'atmosphère de la croix de vue traditionnelle concernant ces problèmes. Et alors, troisième génération, c'est Jacob. C'est là que les Athéniens s'atténuent. Parce que l'approximation d'identité qui s'instaure en réalité de Jacob, c'est un frère jumeau qui n'est pas Jacob, mais qui se prétend Israël et qui va fonder la fécondité, comme Ishmaël a fondé l'Islam. Et on s'en expliquera si vous voulez, mais ce n'est pas le but. Nous avons Jacob et un schéma, le schéma Israël. Et puis, l'antagoniste qui veut tout annuler, c'est l'oncle de Jacob, que la Bible appelle Laban, l'araméen, Laban, je crois qu'on dit, l'araméen, avec une accumulation d'épithètes et d'adjectifs araméen, ça s'accumule sur Laban, et qui lui veut détruire Jacob. Le pire ennemi de Jacob, c'est l'ancien hébreu qui ne veut pas redevenir hébreu et qui reste araméen. Dans notre programmation contemporaine, vous comprenez les démêlés que nous avons avec les juifs de l'exil qui, au nom de leur religion juive, refusent d'être Israël. Cette figure-là, elle est déjà en récit. Et dès qu'on a découvert de quoi il s'agit de l'histoire d'une petite famille, la famille du salut. Ça commence avec Abraham. Il y a une sélection d'identité où l'on voit l'identité hébraïque du patriarche émerger dans des difficultés et des miracles colossaux. Et puis en fin de compte, dans Jacob et Israël, l'histoire de Israël commence. Et elle est accompagnée donc de ces six rivalités. Et une qui est sans pitié, elle veut détruire. Et l'autre ne veut pas détruire, mais veut remplacer. Et c'est comme ça que ça se passe dans l'histoire depuis le milieu. Nous heurtons à ceux qui veulent détruire, dont l'objectif est la Shoah, et nous heurtons à ceux qui veulent remplacer. Et l'objectif est de s'approprier l'identité d'Israël, chacun à sa manière, Ishmaël pour la sienne, Ésaü pour la sienne, et donc ont des problèmes de conscience lorsque les événements les obligent à ouvrir les yeux. À cause de ce mystère inexplicable, la survie est promise par la Providence et garantie par la Providence en définitive. Et alors voilà. Il y a des périodes particulières où apparaît un septième personnage qui cumule les deux prétentions. La prétention de détruire et celle de remplacer, et que la Torah appelle Amalek, et qui apparaît à des périodes très caractéristiques, les périodes de fin d'Égypte. Vous prenez le récit de l'Exode, dès qu'Israël sort d'Égypte, Amalek surgit. C'est clair? Vous prenez le livre d'Esther qui raconte la fin du deuxième exil, l'exil de Babel, tout le livre d'Esther est consacré au démêlé avec Amalek. Et puis, de notre temps, et bien c'est ce qui est arrivé dans les dernières générations. Amalek a surgi. Et avec des masques très différents de tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il s'agit de cette identité humaine qui simultanément veut détruire Israël et le remplacer. Il est allié de même camp. Hitler a dit, avec une honnêteté démoniaque, ce qu'il voulait faire façon de la crue. Il est allié de la charte palestinienne. Et avec armée russe à la clé. Et puis, ce qui se passe ici, en tout cas pour un croyant d'avis, est tellement énorme qu'on le repart. On ne voit pas que c'est Dieu qui travaille et qu'il a un programme et que ce programme a été révélé. C'est là bien. Bien. Et alors voilà, pour ces trois termes que je suis obligé d'employer dans cette analyse, je vais essayer de faire très très bref, parce qu'il vaut mieux que je tente de répondre à vos questions que de répondre aux miennes, bien évidemment. Eh bien, il y a le temps des Hébreux. Et dans l'exil, c'est le temps des Juifs. Et puis à la fin de la période d'exil, c'est de nouveau le temps des Hébreux, et ça s'appelle les Israélites. Et il y a 2000 ans, l'hébreu est descendu en exil et devenu juif. De notre temps, le juif remonte de l'exil, redevient hébreu, et c'est ça l'histoire. Et alors, il y a une mutation d'identité telle, presque dans la simultanéité du temps, qu'on s'en rend pas compte. Et pourtant, l'humanité entière vit ça en Jésus. L'humanité est en train d'enfanter Israël. Alors ça fait mal partout, et ça fait mal surtout dans les parois de la matrice, les non-frontières de l'État juif. Mais cet État juif, encore une fois, c'est un État hébreu. Et c'est ça Israël, des Israéliens, et c'est ça qui pose le problème que la famille des patriarches a toujours posé à l'humanité depuis l'origine. Voilà, c'est l'écran sur lequel, en tout cas, un juste traditionnel vous inviterait à réfléchir à la question qui se pose. C'est-à-dire, je crois que c'est une question très difficile qui se pose à vous, parce que l'Église n'a, quelle que soit la bonne volonté,